Jean-Baptiste Lecuy, vous êtes professeur de théologie à Lille et vous venez d'écrire un dernier livre qui s'appelle « Quand Dieu habite en l'homme ». Dieu, pour venir, a besoin de l'homme. Comment est-ce qu'on reconnaît cet amour de Dieu si ce n'est par l'homme ?
On a ce désir d'être reconnu, mais est-ce qu'on peut dire simplement « Dieu, c'est comme ça, il vient à moi comme celui qui répond à mon attente ?» Je ne sais pas, parce qu'en même temps, Dieu répond à une attente de l'homme, mais il le fait d'une façon, on le voit bien dans l'Évangile, qui vient aussi un peu nous bouleverser. Et ça tombe pas exactement sous le sens, quoi. Quand Dieu se donne à nous en Jésus, son fils, quand il envoie son fils, on voit bien que pour Jésus, ça ne se passe pas si simplement que ça. Il frappe à la porte des cœurs, si on peut dire, mais elle ne s'ouvre pas si facilement. Peut-être justement parce que s'ouvrir à l'autre, c'est à la fois quelque chose qu'on désire, mais qui nous fait peur. Parce que jusqu'où est-ce que ça va m'entraîner ? Ça m'oblige à sortir de mes habitudes, ça vient un petit peu bouleverser ma vie. Et puis je ne peux pas maîtriser les choses. Et donc, il y a en nous une tendance, évidemment, à vouloir maîtriser. On préfère à la limite un petit malheur auquel on est bien habitué et qu'on peut contrôler, parce que ça, le malheur, c'est un gros avantage, c'est que ça réussit à tous les coups. Si on veut être de mauvaise humeur, il n'y a qu'à le vouloir. Tandis que le bonheur, on ne peut pas le maîtriser. Et donc, entrer dans une relation de reconnaissance et d'amour avec les autres, et encore plus avec Dieu, ça nous met un petit peu en difficulté, parce qu'on entre dans une aventure qu'on ne va pas pouvoir maîtriser. Et c'est très patiemment que Dieu, justement, va nous montrer qu'on n'a pas de raison d'avoir peur, quoi. D'un certain point de vue, on a le désir de Dieu au sens, on a le désir du bonheur, ou de la vie, et que Dieu est le bonheur et la vie de l'homme, mais d'un autre côté, on n'a pas le désir de Dieu, parce que c'est lui qui va nous apprendre à le désirer. Si on raisonne simplement à un moment donné, à un instant T, bon, je ne peux pas dire si j'ai vraiment le désir de Dieu. Par contre, ce que je peux dire, c'est que Dieu a le désir que j'ai le désir de lui. D'une certaine manière, on pourrait dire ça comme ça.
Dieu a le désir que nous le désirions. On peut dire aussi qu'il passe par l'expérience de l'humanité, par l'expérience de l'amitié, de l'amour. Il passe par les hommes pour justement habiter cet espace.
Tous ces mots « désir », ça renvoie à des réalités qu'on expérimente.
À des réalités concrètes, voilà. Corporelles.
Tout à fait. Et puis, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que là, le Dieu dont je parle depuis le début, dont nous parlons tous les deux depuis le début, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est le Dieu de Jésus-Christ. Or, justement, ce Dieu de Jésus-Christ, on a accès à lui par Jésus. Donc par l'humanité de Jésus, par la façon concrète dont il a interagi avec les personnes, dont il les a rencontrées, touchées, dont il s'est donné, etc.
Et aujourd'hui, par quelle humanité est-ce qu'on atteint l'humanité de Jésus ? Où est l'humanité qui nous permet de toucher Jésus ?
Comment je vais répondre à ça ? Si je donne des noms de personnes, je risque de faire un tri. Je dis, j'espère, et d'une espérance qui s'appuie sur l'expérience, qu'effectivement, il y a parmi les humains certains qui sont un peu des témoins ou des porteurs d'une humanité qui parle de Dieu, quoi.
Mais nous tous, nous sommes témoins.
Nous pouvons l'être, plus ou moins, mais je pense qu'il y a aussi, hélas, des moments où, justement, ceux dont on attendrait peut-être qu'ils soient témoins de ça blessent, voire blessent gravement cette possibilité. Et puis parfois, il y a ceux dont on l'attendrait assez peu, parce qu'ils ne sont pas étiquetés vraiment croyants, etc., qui vont donner un témoignage d'humanité qui va être aussi une porte ouverte pour certains pour découvrir Dieu. Donc c'est très difficile de donner une réponse générale. On pourrait dire, ce sont les saints, entre guillemets, mais qui sont les saints ? Il y a ceux, les grandes figures connues, et puis il y a tous les autres.
Et les saints, justement, ou les potentiels saints que nous sommes, parce que finalement, c'est devant nous, nous sommes dans une réalité corporelle. Comment est-ce que ce corps peut être chemin aussi pour découvrir cet espace intérieur ? Quelle est la place du corps dans cet espace ?
J'appartiens à une tradition, dans le Carmel, dans lequel on passe beaucoup de temps à la prière silencieuse. Et j'ai certains de mes confrères, plutôt de la génération avant moi, donc qui sont aujourd'hui, disons, 70-80 ans, qui ont développé une pédagogie de prier avec son corps. Et en fait, ça m'a toujours un petit peu gêné, cette expression, prier avec son corps, parce que je ne vois pas comment on peut prier sans son corps, en réalité. Donc le risque, c'est quand on dit la place du corps ou avec son corps, c'est qu'on considère que le corps, c'est un peu une option ou quelque chose en plus, quoi.
Il n'empêche que la question se pose, parce qu'on a quand même complètement déconnecté les deux domaines. L'espace de parole dont vous avez parlé, c'est un espace qui est dans mon corps. Et le corps, comment est-il chemin vers cet espace ?
Ça me paraît tellement évident que tout mon être est engagé dans la relation à Dieu que j'ai presque de la difficulté à me dire mais comment ça serait possible de laisser le corps de côté ? Mais il est vrai qu'on peut avoir l'impression en lisant certains témoignages ou en observant certaines personnes que finalement Dieu serait tellement loin du corps ou de la sexualité ou de l'affectivité que pour le rencontrer, il faudrait mettre le corps de côté. Donc là, non seulement ça ne me paraît pas possible, mais c'est même dangereux parce que c'est tout simplement, c'est pas vrai. vraiment chrétien, quoi. On voit que Jésus, quand il a rencontré les hommes ou quand il rencontrait son Père, c'était de tout son être, quoi. Il a donné son corps et son sang, c'est-à-dire tout son être, pour nous. Donc, je crois que c'est vraiment particulièrement important aujourd'hui de se dire, quand je rencontre Dieu, j'ai pas à laisser de côté quelque chose. Donc, je viens avec tout moi-même, avec mon affectivité, si je suis un homme comme homme, si je suis une femme comme femme, donc dans ma sexualité aussi. Et il y a une très belle illustration de ça, c'est un très beau livre de la Bible qui est le livre qui a été sans doute le plus commenté dans toute l'histoire. Donc on appelle le Cantique des Cantiques, donc ça veut dire vraiment le poème par excellence, quoi. Et ce poème, c'est un poème d'amour entre un homme et une femme. Alors la tradition l'a souvent interprété dans le sens de dire, l'homme, le bien-aimé, donc ça représente Dieu, et la bien-aimée, ça représente l'Église ou l'âme, etc. Alors je vois par exemple au Carmel, quelqu'un comme Saint Jean de la Croix a dit, voilà, même si vous êtes un homme, considérez que vous êtes un peu, que votre âme, c'est un peu l'épouse du Christ. Je dois avouer que moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et je me demande, ça fait partie un peu de mes recherches, si on pourrait pas dire, mais finalement, ce qui est important dans le Cantique des Cantiques, dans ce livre, ce poème d'amour qui nous parle de Dieu, c'est pas de savoir si je suis du côté de l'homme ou du côté de la femme, mais c'est le lien d'amour lui-même. Et je me dis, ça c'est quelque chose de très important, peut-être que j'y pense particulièrement parce que j'ai fait le choix d'être religieux, donc je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, c'est que voilà, quand on considère la beauté de l'amour humain entre un homme et une femme, tout ce qu'il a de désirable, de bien avoir présent à l'esprit que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, que c'est vraiment que c'est un signe pour nous de Dieu, de l'amour de Dieu. Et que donc, pour un homme, ce qu'il trouve de désirable dans une femme, c'est pas quelque chose qui va l'éloigner de Dieu, mais au contraire, qui lui parle de Dieu. Alors évidemment, il y a le danger de tout mélanger, Dieu n'est pas ma femme. Mais en même temps, si j'étais marié, bon, il y aurait des difficultés, faut pas non plus s'illusionner, mais ce que je vivrais de positif, de bon et d'heureux, eh bien, j'en rendrai grâce à Dieu. Enfin, je l'espère. Donc, même en n'étant pas marié, je peux me dire, oui, Dieu, celui que je le cherche parce qu'il est la source de cet amour. Donc, voilà un petit peu pourquoi c'est parce que je vis ces questions, ces réalités avec tellement de conviction que c'est important que j'ai du mal à répondre à la question de la place du corps parce que pour moi, elle est évidente. C'est avec tout mon être que je cherche Dieu. Il y a un père de l'Église qui dit, le moine qui n'aimerait pas Dieu avec un amour aussi ardent qu'un homme aime une femme, il serait pas vraiment, il mériterait pas vraiment d'être appelé moine. L'amour de Dieu, c'est pas quelque chose à côté de l'amour humain, mais c'en est la source. Et c'est aussi, je dirais, la promesse que toutes les promesses de l'amour humain trouveront un accomplissement dans la relation à Dieu encore plus beau et profond.
Jean-Baptiste Lecuy, vous étiez, avant d'être professeur de théologie, ingénieur agronome. Ouais. Comment est-ce qu'on passe d'être ingénieur agronome à être carme, puis professeur de théologie, pas n'importe quelle théologie, l'anthropologie théologique, avec toutes les problématiques que vous venez de situer. Quand vous regardez un petit peu ces 20 dernières années, il y a un fil qui fait le lien entre tout cela ?
Je pense que si je devais dire un fil, c'est peut-être la question de l'humain, finalement, le mystère de l'homme. Je me souviens, avant d'entreprendre mes études d'ingénieur, en fait, j'ai pas exercé le métier d'ingénieur agronome, puisque je suis entré tout de suite au Carmel après avoir eu mon diplôme. Avant, j'étais passionné par des auteurs comme René Girard ou autres qui posaient la question, mais d'où vient l'homme, qu'est-ce que l'homme, etc. Donc ça, c'est un peu le fil rouge, je pense, pour moi. Donc j'ai fait volontairement des études d'ingénieur dans le domaine des sciences du vivant, de la vie, hein, parce que ça m'intéressait beaucoup, l'évolution, par exemple, la question de l'évolution. Ensuite, quand je suis entré au Carmel, où il y a une place très importante accordée à la prière silencieuse, je me disais, c'est en Dieu que je vais trouver, la réponse un peu aux questions que je me posais, sans doute. Peut-être qu'au début de mon temps au Carmel, c'était Dieu, 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 et puis pas tellement l'humain. Puis progressivement, si on met l'humain de côté, il revient d'une façon ou d'une autre. Et en plus, j'ai fait une psychanalyse, donc cette expérience m'a aussi conduit, voire obligé, à poser encore plus radicalement certaines questions, justement sur la place du désir, de l'amour, etc. Donc ça fait un fil rouge. Et en fait, il se fait qu'au moment où on m'a proposé, après mes premières années d'études de théologie, d'enseigner moi-même la théologie, parmi les cours possibles, il y avait la théologie spirituelle où, alors je vais dire le mot qui est un peu technique, donc l'anthropologie théologique, c'est-à-dire en fait la réflexion de foi sur l'être humain. Et là, je me suis dit, tiens, ça rejoint tout à fait les questions que je me posais quand je préparais mon bac et que je voulais faire de l'anthropologie, etc. Donc là, il y a un petit peu un fil rouge. C'est-à-dire que si on voulait résumer, on dirait qu'on ne peut pas rencontrer Dieu en faisant l'impasse sur l'humain ou en laissant l'humain de côté. C'est vraiment au cœur de la démarche, quoi.